Je vous remercie pour l'occasion de vous parler au sujet des droits collectifs. Et merci à Hugo Cyr et à Rémi Béchon et les autres qui ont travaillé pour rétablir cet événement, et particulièrement à la chaire en recherche du Canada en études québécoises et canadiennes et au Centre d'études sur le droit international et la mondialisation pour leur appui pour l'événement. Je vais essayer de traiter quelques aspects du sujet des droits collectifs, de parler un peu de ma théorie de ses fondements philosophiques et des implications de cette théorie, des fondements pour des questions comme leur interaction avec les droits de l'individu. Je parle de la théorie que j'ai avancée dans mon récent livre « Community and Collective Rights, a Theoretical Framework for Rights Held by Groups ». Si vous vous intéressez aux autres aspects de ma théorie, je serai évidemment heureux de répondre aux questions après la présentation. De plus, je vais passer une copie de ce livre si vous aimeriez le voir et le passer. Et je vais passer des renseignements à propos de quelques méthodes d'ordonner votre copie personnelle si ça vous intéresse. Les questions à propos des droits collectifs sont, à mon avis, particulièrement importantes au contexte canadien et au contexte québécois, mais je cherche plutôt à avancer en théorie générale des droits collectifs pour essayer de les décrire premièrement à l'abstrait avant d'avancer des implications pour des contextes spécifiques. Je peux différencier un peu mes théories de celles de Michel Simard de l'Université de Montréal, qui premièrement aborde spécifiquement des droits des groupes nationaux. Moi, je crois qu'il y a d'autres groupes qui sont capables d'avoir des droits collectifs. Je ne trouve pas les groupes nationaux totalement uniques. Il y aura, d'après moi, d'autres groupes qui auront des relations et ils peuvent détenir des droits, les communautés religieuses, les communautés autochtones, les communautés culturelles, linguistiques, peut-être même des syndicats, des corporations et d'autres aussi. On a besoin d'une théorie assez générale. Et je m'intéresse, je dirais peut-être aussi, aux droits des groupes comme groupes, des droits qui sont détenus par le groupe, comme entité en elle-même, plutôt qu'une collection ou une agrégation d'individus, des individus. Je vais l'expliquer un peu plus tard aussi. Deuxièmement, dans son œuvre, et c'est une œuvre magnifique, je dirais sans hésitation, même après les différences, Seymour indique, selon son sous-titre, qu'il offre une théorie libérale des droits collectifs. À ma théorie, j'essaie au moins, au certain sens, d'être ni libéral, ni contre-libéral, ou ni anti-libéral. Alors, j'adopte un point de vue œcuménical autour de la question du poids de l'autonomie, et j'accepte l'idée que certains groupes peuvent conservablement être justes, même en limitant l'autonomie individuelle aux certains contextes. Alors, je ne rejette pas la cible libérale de l'autonomie, mais encore, je ne l'accepte pas non plus. Et je vais l'expliquer un peu plus tard aussi. J'accepte une certaine partie de ce qu'on appellerait l'individualisme moral. On peut associer à le libéralisme une plus grande doctrine bien décrit par Seymour comme à ces mots, affirmant que A, l'individu est antérieur à ses propres fins, B, qu'il est la source ultime de toute revendication morale légitime, et C, que l'autonomie individuelle est la valeur libérale par excellence, ou la valeur par excellence. Je n'accepte pas nécessairement C, et je suis au moins sceptique envers A, mais j'accepte une variation plus faible de B, spécifiquement ce que Joseph Raz appelle le « humanistic thesis », que ultimement, c'est les intérêts des individus qui comptent moralement. Par des intérêts, je dirais des intérêts objectifs, des choses qui rendent la vie mieux pour des individus. Et je vais parler plus tard des intérêts collectifs. Des intérêts collectifs étant des choses qui rendent mieux l'épanouissement de la vie collective d'une collectivité. Cependant, je n'accepte ni l'individualisme méthodologique, l'idée que l'action collective peut être réduite simplement aux actions individuelles, ni la réduction des intérêts collectifs à une simple agrégation des intérêts individuels. J'offre un argument plus long et compliqué pour la nature non agrégative des intérêts collectifs dans le livre et avec toute la technicalité mathématique de l'impossibility theorem de Kenneth Arrow dans un article publié en 2004 dans l'American Journal of Jurisprudence. Mais je dirais que, assez simplement, c'est impossible de décrire certaines actions collectives comme une simple agrégation des actions individuelles. On a quelquefois des actions individuelles qui sont opposées à l'action collective, mais encore l'action collective. Par exemple, avec certains paradoxes, avec des cours où on arrive à un résultat par la cour qui ne correspond pas à le résultat de la majorité des juges, que la plupart des juges individuellement auraient choisi un autre résultat, mais la combinaison de leur jugement arrive à un autre résultat, à une action vraiment collective ici. On a aussi des intérêts collectifs qui ne se réduisent pas simplement ou facilement aux intérêts individuels. Et par exemple, il y aura des cas où l'épanouissement de la collectivité va bénéficier de quelque chose qui semble au moins premièrement opposé aux intérêts de la plupart des individus qui sont membres de la groupe. Et on peut avoir des choses comme ça. Alors, c'est avec cette collocation d'un individualisme moral avec d'autres possibilités envers les actions et les intérêts collectifs que je développe un argument pour des droits collectifs dans le propre sens, les droits des collectivités ou des communautés. Comme si moi je trouve trop faible l'idée chez Will Kimmicker d'adopter simplement les droits différenciés par le groupe, Group Differentiated Rights, ces droits peuvent évidemment exister quelque part, mais ils sont trop faibles pour répondre à plusieurs questions. Et c'est important que Kimmicker ait avancé cette idée et c'était une contribution fort significante. Mais ce n'est pas suffisant pour toutes les choses qu'on confronte. Kimmicker cherche à offrir une théorie pour répondre, dans son premier livre, aux idées des groupes autochtones qui ont des idées différentes des droits et des idées droits des groupes, mais il a aussi ce contrainte contre-avancer même les idées des communautés autochtones. Et il dit dans un certain passage de ce livre que, ultimement, c'est les juges libéraux qui ont du pouvoir et il faut alors adopter quelque chose qui est convenable avec le libéralisme et rejeter des idées qui sont autres que ça. Moi, j'aimerais suivre plus longue l'idée qu'il y aurait peut-être quelque chose de différent que simplement des groupes differentiated rights. Alors, Kimika a fait une grande contribution, mais il y a quelque chose de différent qu'il a avancé. Et il y a des problèmes avec ce qu'il a avancé, par exemple. Kimika prétend que des groupes ont des droits différenciés pour préserver le droit à chacun et chacune d'avoir un contexte culturel sans inégalité résultant des coûts inégaux de maintenir une culture minoritaire. Son argument. Cependant, cet argument ne peut pas résister à une proposition d'assimilation qu'avec des coûts temporaires. Chacun et chacune aurait encore un contexte culturel en assimilant à une culture majoritaire. L'argument n'accomplit pas ce à quoi on s'attendrait peut-être. Il offre les conclusions importantes qu'on peut avoir les différences appuyées par le libéralisme, mais il ne défend pas ultimement ces mêmes différences contre une idée peut-être de l'assimilation plus long terme. Alors, il y a des questions qui restent après ça, et comme Seymour, j'ai des questions. J'aimerais défendre des droits détenus par des groupes spécifiquement, plutôt que des droits différenciés par le groupe ou group differentiated rights. Mon argument procède de le caractère non agrégatif des intérêts collectifs en colocation avec la réalité que l'épanouissement de certains collectifs contribue aux vies des individus. Mais pour établir l'existence des droits collectifs, il faut dire plus que ça. En commençant avec l'existence des droits individuels, on peut formuler un argument. Si certains droits individuels bien acceptés existent, il faut, selon mon argument, que certains droits collectifs existent aussi. C'est à cause du fait que le respect pour les droits des individus nécessite un respect pour les intérêts collectifs, qui alors sont des intérêts sufficients pour justifier une responsabilité et alors qui sont des droits. Par exemple, il est inconcevable d'avoir la liberté de religion sans respecter des institutions religieuses, de les permettre d'avoir leurs immeubles, par exemple, de construire des immeubles quelque part, et de ne pas raser les structures incorporelles des religions. Mais personne ne peut pas avoir un droit individuel au respect de la totalité d'une église. C'est le groupe religieux qui détient un droit ici. Ça, c'est la structure au moins de mon argument qu'il faut que les droits collectifs existent comme droit moral. Et j'ai d'autres exemples dans le livre, mais c'est la structure que j'essaie d'expliquer plus brièvement. Cette structure, j'ajouterai, ne limite pas les droits collectifs qui existent à simplement ceux qui sont colloques des droits des individus ici. C'est un argument pour l'existence d'au moins certains droits collectifs, mais on pourrait développer des idées plus générales des droits collectifs qui peuvent justifier une responsabilité morale qui ne sont pas liées exactement le même avec les droits des individus. Cependant, avec les présomptions avec lesquelles j'ai commencé, on peut lier les droits collectifs aux droits individuels dans un autre sens. On peut avoir des groupes bons ou mal à cause de la proposition que c'est les intérêts des individus qui comptent ultimement. Il faut toujours demander si un certain groupe se sert aux intérêts des individus qui sont membres de groupe. On va avoir évidemment des questions complexes quand certains individus bénéficient d'un groupe plus que les autres, mais on a néanmoins toujours une question de si un groupe se sert à ses membres. C'est à cause de cette demande de la légitimité de la groupe qu'on peut dire que les conflits entre les droits collectifs et les droits individuels seront limités. Le dire ça ne dit pas que les collectivités ne peuvent jamais limiter l'autonomie de leurs membres. Contre Kimlicka, je ne m'intéresse pas seulement à la contribution des groupes à l'autonomie de leurs membres, mais je reconnais que des groupes peuvent contribuer à d'autres intérêts individuels, à d'autres aspects de la vie des individus. Par exemple, où une langue est vulnérable à cause des contextes linguistiques de la région, je le trouve acceptable qu'un groupe culturel limite raisonnablement la liberté de ses membres à avoir toute forme d'assistance à apprendre une autre langue à préférence de celle du groupe. Certaines politiques linguistiques au Québec sont de ce sort, évidemment. Et selon moi, sont acceptables. Contre Kimlicka, c'est permissible de n'offrir pas des souverainements gouvernementaux aux membres de la majorité francophone au Québec d'apprendre l'anglais au lieu du français, je dirais. Et contre Kimlicka, c'est permissible, d'après moi, d'avoir une plus grande politique linguistique pour créer un visage francophone au monde du commerce, par exemple. Et pas simplement comme un compromis des valeurs. Kimlicka semble, à ses plus récents écritures, plus ouverte à la politique linguistique du Québec, mais sans une justification fondamentale, mais plutôt comme une simple acceptation d'une sorte de compromis. À ma théorie, c'est permissible de fondement d'adopter des limites à l'autonomie totale pour promouvoir une culture qui se sert aux membres et dont l'épanouissement enrichit leur vie. Et on pourrait donner d'autres exemples de ça, mais c'est un exemple du point. L'autonomie totale, je dirais, est une sorte de paradoxe de le défendre. Il faut toujours demander une autonomie pourquoi. Si on défend simplement une autonomie, l'autonomie est une valeur, mais moi, je pense que les groupes peuvent se servir à d'autres intérêts des individus aussi. Et ça donne de différentes conséquences pour certaines politiques. Il y a évidemment des limites. Premièrement, si une politique linguistique est sans possibilité de réussir, on pourrait avoir une situation triste, même tragique, mais l'une où il serait injustifiable de limiter l'autonomie des jeunes pour promouvoir une langue qu'on ne peut pas sauver. C'est probablement, malheureusement, mais encore véritablement le cas avec, par exemple, des langues de certaines communautés autochtones, mais pas avec, évidemment, d'autres communautés autochtones qui pourraient réussir à sauver leur langue. Deuxièmement, si une politique impose des conséquences trop sévères aux individus, on pourrait avoir aussi des questions à poser. Alors, c'est juste au Québec d'avoir des exceptions modulées aux politiques linguistiques envers des affiches au magasin et des affiches sur les produits, au moins pour des articles religieux qu'il serait difficile à obtenir avec des affiches françaises, par exemple des produits juifs pendant Pesach. Je dirais que c'est une exception pour laquelle il y a une raison. Il serait possiblement juste d'avoir certaines exceptions ou au moins une politique de discrétion avant de poursuivre des membres d'autres communautés utilisant la langue d'autres cultures vulnérables. Mais ça dépend d'une analyse complexe et j'imagine que je viens de dire quelque chose un peu plus controversé qu'avant. Je dirais aussi qu'il y a d'autres limites. Je dirais, par exemple, avec la communauté autochtone, avec le même principe qu'en ce qui concerne avec des conséquences trop sévères aux individus, que c'est une chose de promouvoir une langue qui facilite la participation à un monde de commerce. C'est une autre chose piéger des gens dans une langue où s'ils n'ont pas assez d'opportunités d'apprendre des langues mondiales, ça peut être quelque chose de concernant aussi. Alors, on peut avoir plus à dire à propos de ces idées aussi. Une conséquence importante de mon approche est qu'on peut aussi évaluer une collectivité relativement aux autres collectivités possibles, y compris la même collectivité avec certaines reformulations de ses approches, de ses pratiques, de ses traditions, etc. Il sera souvent possible d'offrir dans une culture des réinterprétations des traditions aux formes qui se servent mieux aux membres ou aux certains membres, sans père pour les autres ou sans grand-père pour les autres. Si on a une telle situation, ma théorie donne des arguments pour les réformes, pour les reformulations, et même anticipe que les vraies collectivités complexes des cultures qui ont existé, qui existent depuis longtemps, qui détiennent des droits, seront le type de collectivités qui vont reformuler les traditions. Mais il ne faut pas être simplistique ici. Des cultures sont des entités complexes et vivantes, et c'est tout à fait possible que les reformulations, que les nouvelles interprétations ne sont pas immédiatement accessibles. Charles Taylor l'exprime bien quelque chose que certains trouveraient peut-être controversé, mais qui a encore quelque chose à dire. Il dit: the gender definitions of a culture are interwoven with, among other things, its love stories, both those people tell and those they live. Les questions à propos de gendre à une culture sont liées aux expériences de vie, au grand sens, et sont compliqués à séparer des vies des gens dans la culture. Il y a quelquefois quelque chose qui serait en principe mieux de reformuler, mais qui est au moins temporairement inséparable des choses qui sont encore valables, qui ont encore de valeur, avec le conséquent que c'est possiblement juste que les changements viennent avec le temps, en certains cas. Ça dépend évidemment du contexte, ça dépend évidemment l'impact de maintenir certaines pratiques ou certaines traditions qui posent des questions à propos de l'égalité ou quelque chose comme ça. Même au tel cas où les changements peuvent venir seulement avec le temps, ça ne rejette pas les arguments que le groupe en question aura moins de légitimité qu'il pourrait avoir. Mais il faut encore accepter, à mon avis, certaines imperfections ou réclamations dans une théorie pour un monde réel plutôt qu'un monde imaginé. Et on aura des occasions où c'est plus juste encore de reconnaître le droit collectif, même avec un certain coût aux droits des individus, un coût qui nous concerne, évidemment, mais on a encore une question d'un droit collectif qui est assez grave et il faut faire ce choix. Il y aura aussi quelquefois des traditions qui confondent, au moins qui provoquent la confusion aux ceux et celles qui ne sont pas membres d'un groupe. Particulièrement si ces traditions ont une duration et ne sont pas évidemment offensives aux intérêts et droits de certains individus, il y aura de telles traditions, je dirais, qui sont évidemment offensives. Par exemple, au moins des formes plus extrêmes des surgères génitales, des choses comme ça. Mais avec des traditions qui ont une duration et ne sont pas évidemment offensives aux intérêts et droits des individus, il faudrait plutôt les accepter avec des présomptions de bonne foi, même s'ils provoquent la confusion ou quelque chose comme ça. C'est pas si grave. Je ne suis pas moi-même tenté d'adopter le mode des vêtements des autres orthodoxes. Je ne le comprends pas du tout. Mais c'est encore possible d'avoir du respect pour eux. On ne perd pas en réalité en trouvant des compromis pour montrer du respect et, par exemple, de ne pas installer des événements nudistes immédiatement devant les établissements ultra-orthodoxes. Même de respecter la tradition dans un certain quartier de Jérusalem, c'est possible que la tradition est peut-être respectée et le droit de groupe peut être respecté au certain sens. Moi, je dirais même que ce n'est pas si grave d'avoir une vitrine non transparente au gymnasium, mais j'accepte qu'on pourrait avoir plus de discussions auprès de ça et c'est controversé ici, évidemment. Je ne cherche pas une théorie qui offre des réponses faciles à toute question. Comme vous, ce serait risible, à mon avis. Je cherche plutôt à une théorie qui peut justifier l'adoption de certaines considérations, de certaines approches, de certains principes qui peuvent appuyer les discussions complexes. Et ma théorie a une correspondance au monde en réalité qu'on trouve certaines de ces questions complexes. On peut avoir des idées fortes, mais on peut accepter que c'est une question complexe, au moins au certain des cas. D'autres parties de mon livre cherchent à montrer l'application de ces fondements aux relations entre des groupes. Et j'ai commencé à parler un peu de ça avec certains des exemples, mais je l'examine plus à un autre chapitre du livre. Je vais peut-être plutôt dire un peu plus à propos de ça, j'ai un peu de temps. Mais je dirais qu'il y a une autre partie de mon livre qui va le décrire plus que je vais le faire. D'autres parties discutent des questions de la définition du membre de groupe ou aussi des questions de quand c'est permissible pour l'État de chercher à effectuer des changements à un groupe et ses pratiques ou traditions. Partout, je cherche à offrir des approches avec une certaine souplesse, une certaine reconnaissance des limites de théorisation, mais aussi avec la possibilité d'offrir des principes pour guider certaines discussions et certains choix. Mais on arrive à un différent point que d'autres théories ici, où on peut reconnaître le droit collectif comme quelque chose d'important en elle-même, avec au moins certains groupes et certaines pratiques et certaines traditions. C'est difficile souvent à même défendre une tradition si on a une théorie simplement des droits des individus. Pourquoi est-ce qu'il faut accepter une tradition il faut qu'on se concerne seulement avec les droits des individus. C'est quelque chose qui n'annule pas vraiment. Dans la partie de mon livre où je discute des relations entre des groupes, j'ai une discussion de l'idée que l'autre contrainte au droit collectif, l'une des contraintes principales, c'est le respect pour le fait que le groupe, qu'il faut que le groupe se serve aux intérêts de ses membres. L'autre aspect est la relation avec d'autres groupes. Et ce que je dis là-bas, c'est que les relations avec d'autres groupes, quand on s'y concerne, il faut que les pratiques d'un groupe montrent un respect pour les principes qu'il y ait d'autres groupes qui peuvent mériter le même respect que le groupe. Mais ça ne donne pas des conclusions très spécifiques. On va avoir des cas assez différents. Si le Ku Klux Klan démontre contre une certaine religion, on a l'exemple d'un groupe qui veut immédiatement détruire un autre groupe ou ses membres, et on ne peut pas l'accepter. Il y a une raison à la théorie de le rejeter. Mais si un groupe a une définition et a des pratiques qui sont centrales à leur groupe, qui ne sont pas dédiées à la destruction d'autres groupes, mais qui restent difficilement avec d'autres groupes, on peut avoir la possibilité de les accepter au certain cas. Et ça va dépendre de l'impact aux autres groupes, des choses comme ça. Alors, si c'est central à une certaine société, que c'est une société où la laïcité est centrale, ça peut imposer des limites à cette société qui sont différentes qu'aux autres sociétés qui ne sont pas des sociétés avec un principe central de la laïcité. Et certaines de ces limites peuvent avoir un impact aux autres groupes, dans la même société, des groupes religieux, par exemple. Mais il faut examiner l'impact, il faut examiner des choses cas par cas, un peu, avec des principes, mais avec une reconnaissance des droits de différents groupes et de le groupe qui avance une théorie de laïcité, mais aussi des groupes religieux qui vont détenir des droits. Et ce que je dirais ici, c'est simplement qu'il y a des sociétés variées au monde, et ce n'est pas nécessairement injuste qu'il y a des différences d'approche aux différentes sociétés à ce contexte. On peut avoir des réconciliations différentes entre des intérêts de différents groupes au contexte varié. Mais on a encore une limite aux réclamations d'un groupe si ces réclamations sont vraiment contre le respect pour le principe par lequel le groupe a ses revendications de droits collectifs. Alors, il y a une relation complexe. J'ai un autre chapitre qui le touche, mais je voulais dire un peu auprès de ça parce que j'avais un peu de temps pour le faire et simplement pour l'adresser un peu. Mon argument, je dirais, est principalement un argument moral. Mais certains droits moraux des collectivités justifieront plus facilement des droits légaux collectifs. Avec d'autres droits moraux, les relations seraient plus complexes. Et alors, je dis que je n'ai pas offert une théorie complète des droits légaux. Ce n'est pas une théorie complète des droits moraux non plus, mais c'est un effort à une théorie des droits moraux, des droits moraux collectifs. Certains droits moraux collectifs vont recevoir du respect à la forme d'un droit légal collectif. Mais avec d'autres, c'est possible qu'on va avoir des droits individuels légaux qui vont respecter le droit moral collectif. Par exemple, certains droits autochtones reçoivent leur expression au droit avec les droits des individus, le droit à faire à la chasse ou quelque chose comme ça, de le droit à une certaine rivière de attraper les poissons. Je monte des mots ici, mais quelque chose comme ça peut être un droit d'un individu, mais on peut avoir en même temps un droit légal collectif, par exemple de surveiller la chasse à une certaine région qui est détenue par une collectivité autochtone, à ce cas. Alors, les relations entre les droits moraux et les droits légaux seront compliquées pour cette raison, parmi d'autres raisons. Mais on aura des droits moraux collectifs qui vont justifier des droits légaux collectifs. Et c'est important à prononcer en théorie des droits moraux collectifs pour comprendre et pour justifier certains droits légaux collectifs. C'est important, par exemple, en appliquant des droits constitutionnels qui protègent plus explicitement ou plus implicitement plus tacitement les droits collectifs d'avoir de bonnes théories de droits collectifs pour le faire. Et au droit international, on a maintenant récemment la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, déclaration au droit des peuples autochtones, je ne sais pas si c'est la traduction, adoptée par les Nations Unies, qui affirme explicitement des droits collectifs. Certains auteurs disent que c'est la première fois au droit international qu'on a une affirmation explicite des droits collectifs. Ce n'est pas exactement vrai, parce qu'on a d'autres droits, des peuples, des droits de développement, des droits d'autodétermination, des choses comme ça. Les droits des États, comment on peut les expliquer si on rejette l'idée de droit collectif? Et c'était intéressant parce que pendant les discussions de la déclaration envers les peuples autochtones, on a eu des États qui sont allés aux Nations Unies, qui sont allés aux discussions pour dire les droits collectifs peuvent ne pas exister, pour dire que les droits collectifs n'existent pas. Et si les droits collectifs existent, ça va poser de grands problèmes pour les droits individuels. Ces États ont des droits de où? Ils ont des droits individuels. Je ne comprends vraiment. Mais je comprends encore le concern qu'ils ont avancé.